C'est la grande époque de la colonisation triomphante. Et là, vraiment, Marchand, il représente cette France qui cherche à reprendre sa place à travers le fait colonial.
Et Mangin est là.
Alors, ce qui est intéressant avec la mission Marchand, si vous m'autorisez, c'est que il y a une poignée d'Européens, ils sont à peine une dizaine ou une quinzaine, il y a des centaines de tirailleurs africains. Et ce qu'on va retenir comme leçon de la mission Marchand, c'est que tout ça a été possible grâce à ces tirailleurs. D'ailleurs, en 1899, ils défilent, pour le 14 juillet 1899, ils défilent derrière Marchand à Longchamp. Et c'est petit à petit comme ça que dans l'iconographie patriotique, dans l'iconographie populaire, commence à surgir la figure du tirailleur. Et je crois que c'est comme ça que Marchand, mais surtout Mangin, vont commencer à réfléchir à l'utilisation, la pratique de ces bras noirs.
Cinquante, leurs yeux sont comme des miroirs. Amourant leur bouche plaisante, les Turcos sont des Français noirs. Alors, sans tambour ni trompette, on y bondir nos tirailleurs. À 10 minutes, place honnête, il n'existait plus d'artigueur. Quand ils cessèrent de se battre, les six canons se trouvaient pris, les braves Turcos sous meurtris, les Turcos n'étaient plus que quatre. Les Turcos sont de bons enfants, les Turcos sont de bons enfants, mais il ne faut pas qu'on les gêne. Autrement, la chose est certaine, les Turcos deviennent méchants. Ça n'empêche pas les sentiments, les Turcos sont de bons enfants.
Le fait sans doute le plus important, ou l'un des plus importants de la Première Guerre mondiale, a été le recrutement et l'utilisation de troupes indigènes. Depuis 1910, le lieutenant-colonel, j'ai dit colonel, c'était lieutenant-colonel Mangin, a tenté de populariser l'idée d'une force noire, c'est le titre de son ouvrage, de son livre le plus connu. Il a popularisé l'idée de recruter en Afrique noire des hommes et pour constituer des troupes également en Afrique du Nord. Je disais tout à l'heure que le chiffre total de ces troupes indigènes, de cette contribution coloniale, était de 600 000, c'est un peu plus, c'est 610 000 hommes venus de partout, plus 240 000 qui ont été recrutés pour travailler dans les usines françaises, souvent les usines d'armement, et on a déploré 81 000 tués et disparus parmi ces troupes coloniales. Et sur ces 81 000 tués et disparus, il y eut entre 35 000 et 40 000, selon les sources, tirailleurs africains qui furent tués ou disparus pendant ce qu'on ose encore appeler la Grande Guerre. On est avec Éric Dereau et Nicolas Bancel sur ce thème des tirailleurs sénégalais.
Je crois qu'on arrive justement à une question intéressante, c'est effectivement l'utilisation des tirailleurs sénégalais. Comme je l'ai dit, on a une période de commémoration où on célèbre à juste titre la participation des tirailleurs sénégalais dans la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais il ne faut pas oublier quand même que ce corps est un corps spécifique qui a servi aussi à conquérir des zones coloniales en Afrique. Ce sont donc des gens qui ont été instrumentés en quelque sorte par l'armée française pour la conquête de leur propre pays. Donc je crois que ça soulève un certain nombre de questions qui me semblent intéressantes.
Là, comment se passe le recrutement ? Est-ce que ça se passe bien ? Les gars viennent avec plaisir ou résistent ?
Mais il y a plusieurs types de recrutement. Il y a un recrutement, vous savez que l'iconographie coloniale, mais Jacques Colonel, a beaucoup insisté sur un seul type de recrutement, c'est celui de la libération des esclaves qui étaient victimes de la traite transsaharienne. Et donc là, on a en quelque sorte la préfiguration de la mission civilisatrice de la France, un thème qui sera appris énormément dans la propagande coloniale. On libère les esclaves et on les incorpore aux tirailleurs sénégalais. Alors, ce type de recrutement a effectivement existé, c'est incontestable.